Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail le poster qu'on a réalisé sur l'analyse des stratégies de dispersion des insectes aquatiques, et notamment par le programme de sciences participatives. Donc moi, je suis doctorant au laboratoire Ecobio à l'Université Rennes, avec notamment Christophe Piscard, Jean-Marc Roussel et Benjamin Bergerot. D'abord, un petit point de contexte. Donc, il s'agit ici pour nous d'essayer d'étudier une partie des interactions entre les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes terrestres. Ces écosystèmes, ils sont pas indépendants, ils interagissent les uns avec les autres via des flux de matière, des flux d'énergie, des flux d'organismes. Et dans le sens aquatique terrestre, ces flux, ils sont pas très bien connus, et ils sont notamment représentés par les insectes aquatiques, avec les insectes à larves aquatiques, comme les éphémères, les plicoptères, certains diptères, et adultes terrestres. Ces insectes, ils ont un fort impact sur les écosystèmes terrestres, notamment par leur émergence ma massive, et car c'est des vecteurs d'acides gras qui sont particuliers et synthétisés uniquement en milieu aquatique. Ils ont d'autres fonctions comme des fonctions pollinisatrices. Mais même si on commence à avoir un petit peu une idée de leur influence dans cet écosystème, on ne sait pas encore quels sont les facteurs qui influencent leur déplacement, qui influencent leur dispersion dans le milieu terrestre. Et étudier ces facteurs nous permettrait de mieux comprendre justement cet impact, leur impact et l'ampleur de cet impact. C'est pour ça qu'on va se focaliser ici sur deux aspects précis. Donc, qui sont la morphologie avec les mesures biométriques des insectes et leurs réserves énergétiques. Donc, on a fait appel à un programme de sciences participatives pour nous aider à collecter ces insectes, car leur émergence est très ponctuelle, elle varie suivant les conditions climatiques, et c'est très difficile d'être là au bon moment pour avoir telle espèce. Donc, le programme de sciences participatives nous permet de couvrir un large territoire. Et on a également suivi trois sites sur la zone atelier d'Ille-et-Vilaine. La diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais vous présenter un petit peu le protocole sur les réserves énergétiques. Donc, c'est des protocoles assez simples. On a utilisé un piège à émergence, donc qui ressemble fortement à une tente posée sur l'eau. Le matériel a également été prêté à tous les participants du programme de sciences participatives, donc neuf organismes comme des fédérations de pêche, des fédérations de chasse, des réserves naturelles, l'OFB, etc. Donc, on a prêté le matériel et les personnes ont pu mettre en place ce protocole qui est assez simple. Les insectes, il suffit de venir les récupérer toutes les 24 heures dans un petit flacon collecteur. Ensuite, ils sont mis au congélateur, ils sont identifiés. D'ailleurs, nous allons transmettre les résultats après aux participants des sciences participatives. Et les insectes, leurs réserves énergétiques, donc les sucres, les lipides, les protéines, vont être dosées. Ça nous permettra d'obtenir des résultats comme ceux que vous pouvez voir à gauche, à droite de l'écran, avec des taux de triglycérine par gramme d'individu. Diapo suivant, s'il vous plaît. Merci. La deuxième grande partie, ça va être les mesures biométriques ou morphométriques, car la forme des insectes, et notamment celle des ailes et de leur thorax, va pouvoir nous informer sur leur capacité et surtout leur potentiel de vol et de déplacement. Pour cette partie-là, la science participative a été un petit peu moins efficace à cause de la situation sanitaire. Ici, il n'y a pas besoin de protocole bien détaillé. Une récolte opportuniste des insectes d'intérêt suffit. Le piège à émergence permet aussi de récolter des individus pour ce protocole. Les insectes sont ensuite identifiés, pris en photo. Les différents proxys sont mesurés, donc des proxys de la capacité de vol, comme la longueur de l'aile, la surface alaire, ou des proxys dits de second degré, comme le moment du. Ah, le. comme la charge alaire, par exemple, donc qu'il s'agit de mettre en relation le poids et la surface de l'aile. Enfin bref, tous ces proxys sont mesurés, calculés, et ensuite analysés grâce à des analyses multivariées. Donc on a un exemple ici. L'objectif final, c'est d'obtenir une. Enfin, final de cette étude, c'est d'obtenir une typologie des insectes, des capacités et des possibilités de déplacement des imagos, donc des imagos des insectes aquatiques, afin de pouvoir mieux comprendre justement leur déplacement en milieu terrestre. Donc l'objectif, c'est de combiner ces mesures biométriques, donc ces mesures morphologiques, avec les réserves énergétiques. Et voilà, je vous remercie. Et je voudrais remercier aussi tous les participants à ce programme.
Bah merci, bonjour à tous également. Donc moi, je vais vous présenter une étude qui porte sur la trajectoire des systèmes bocagers du nord de la zone atelier armorique et qui se base sur une approche chronosystémique des déterminants de la relation de l'homme à la haie. Donc cette étude est portée donc par moi-même, d'INRA et, mais également par des collègues de l'Université de Rennes 1 et de Rennes 2. Diapo suivante. Alors, la zone atelier armorique, comme toutes les zones ateliers, ce sont des sites observatoires à long terme des socio-écosystèmes. Alors, peut-être pour vous présenter un peu plus la zone atelier armorique, c'est une zone atelier qu'on dit un peu historique. Elle a été créée en 1993 et elle a été labellisée en 2001. Elle est le support de nombreux travaux, travaux qui sont disciplinaires aussi, interdisciplinaires, sur la haie et le bocage, hein, puisque en fait ce paysage de bocage est typique de la zone atelier. Donc l'étude porte plus particulièrement sur le site atelier dit de Plaine Fougère, hein, qui était historiquement la petite zone atelier sur laquelle se sont concentrés tous les travaux à partir des années 90, même si aujourd'hui donc les contours de la zone atelier s'étendent à tout le département de l'Ille-et-Vilaine. Donc, diapo suivante. Alors, l'accumulation des travaux depuis les années 90 permet d'envisager la haie comme une composante de deux systèmes, de système écologique d'abord, puisque la haie, c'est finalement un élément du paysage qui contribue à sa connectivité, notamment. Elle est le support de nombreuses fonctions écologiques et elle sous-tend différents services écosystémiques également. C'est aussi une composante de système de gestion. Elle est gérée par différents gestionnaires avec des pratiques différentes, des pratiques en termes d'aménagement, d'entretien, de production, par des gestionnaires qui ont des objectifs différents, mais également des ressources différentes en termes de moyens, de connaissances, d'équipements, etc. Et aussi, il ne faut pas oublier un élément important, la haie et le bocage est un système dynamique, dynamique et qui a largement évolué au cours du temps. Et c'est sur la base de tous ces travaux accumulés depuis les années 90 qu'on s'est posé la question de comment la relation, c'est-à-dire la perception, la gestion de l'homme à la haie est influencée par l'évolution du contexte réglementaire, socio-économique, démographique lié à l'agriculture. Et en fait, cette question s'inscrit dans le cadre de l'action transversale Homme-Nature, pilotée par Chloé Garbois, qui a fait une introduction plénière notamment, et donc qui s'intéresse aux trajectoires de différents socio-écosystèmes de plusieurs zones ateliers et qui vise à identifier les facteurs exogènes et endogènes de leur évolution et de leur capacité adaptative. Donc, diapo suivante. Alors, je n'ai pas pour ambition de vous présenter ici tous les résultats de la frise chronosystémique. Je vous invite pour cela à venir voir le poster. Pourtant, j'ai essayé de vous dégager quelques messages forts, qui est ce changement de paradigme autour de la haie depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour vous en donner les grandes lignes, en fait, au XVIIe et à peu près jusqu'au début du XIXe ou milieu XIXe siècle, la haie était très étroitement associée à l'agriculture. Il y avait un lien très fort entre l'agriculteur et la haie, qui était utilisée à la fois pour la production, bien sûr, mais également différents services de régulation. On parlait de savoir-vert, hein, parce que du fait de ce lien très étroit de l'agriculteur à la haie. Et puis, au cours du temps, en particulier au début des années 50, avec l'avènement de la mécanisation, l'électrification, la haie est apparue plutôt comme quelque chose d'assez encombrant, un héritage culturel assez lourd à porter et qui a conduit en fait à l'arasement de très nombreuses haies. qui n'a pas été sans conséquence d'un point de vue environnemental, puisque à partir des années 1970, on parle de crise environnementale, de perte de biodiversité importante et de pollution des eaux, en particulier dans cette zone et plus largement en Bretagne. Là encore, un autre shift, hein, dans les années 70-80, où la haie n'est plus associée étroitement à l'agriculture, la haie devient un objet de société, un patrimoine naturel qui rassemble cette fois plutôt la communauté des écologues, si on peut dire, mais qui se dissocie des agriculteurs et de leurs liens à la gestion. Et ça, c'est assez concomitant avec l'émergence de nombreuses lois autour de la protection de la biodiversité. Enfin, plus récemment, la haie devient un symbole d'aménagement du paysage qui est un peu concomitant à ces apparitions de lois, notamment Grenelle, autour de la trame verte et bleue. Donc voilà, j'en ai fini pour ces quelques résultats. Je vous invite bien sûr à voir le poster. Et juste pour vous préciser que cette frise a été construite sur la base de bibliographies, d'entretiens avec des chercheurs qui travaillent sur la zone atelier armorique. Et j'ai vocation à conduire des ateliers avec les acteurs de terrain pour avoir leur point de vue sur cette frise. Mais malheureusement, la crise sanitaire a un petit peu bouleversé les choses. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.